Pourquoi lui, il gagne plus que moi?
C'est un homme, voyons.
Tu sais, Delia, c'est une bonne ménagère.
Elle me cherche.
Tu peux pas la battre constamment, sinon elle va s'habituer.
Il est très exactement 7h06. Il vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos fautes. Pas de questions?
C'est la fin du cinéma.
Non, mais je crois que le cinéma existera toujours.
Vous n'allez pas dans le cinéma, vous?
Breakfast.
Ciné.
Club.
Breakfast Ciné Club. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Breakfast Ciné Club, le podcast ciné qui vous pousse à aller en salle et non pas à la salle, mais c'est un peu pareil finalement, c'est un peu une métaphore. Hein,
ouais, tu peux aller à la salle après avoir vu un petit film et t'enchaîner deux
styles. Non, personne fait ça, mais c'est donner un petit peu d'effort et voir des résultats tout de suite.
C'est muscler son cerveau.
Muscler son âme.
J'aime
aussi.
J'aime beaucoup ça. Très
c'est
stylé.
Ce que, et franchement, c'est ce que le film d'aujourd'hui a fait sur c'est mon vrai, propre corps. Aujourd'hui, on va revenir donc sur un long métrage qui est devenu un fait de société en Italie. Mm-hmm. Il reste encore demain. Joe,
c'est ancora domani.
Voilà.
Waouh.
Bon, il a un truc. La comédie dramatique de Paola Cortellesi a fracassé le box-office et on a eu la chance de le voir alors qu'il débarque dans nos salles obscures le 13 mars. Mm-hmm. Ça faisait 30 ans que La vie est belle de Bellini était dans le top 10 des films les plus vus en Italie. Et ce film dont on vous parle aujourd'hui, il en a sorti en moins de 3 mois. Voilà, pour que vous compreniez bien la teneur du succès numéro 1 incontesté de 2023 et ses plus de 5 millions d'entrées, Oppenheimer et Barbie qui complètent le podium, hein, c'est juste 3 ou 4 millions.
Ah oui, d'accord, ouais, c'est derrière donc.
Voilà, c'est derrière.
C'est derrière, tout simplement.
Et je suis hyper heureuse qu'on consacre un épisode du Breakfast Ciné Club à cette grosse surprise inattendue. Un film sur le destin d'une femme italienne victime de violences conjugales qui veut un meilleur avenir pour elle, pour sa fille et pour toutes les femmes finalement. Et puis qui reçoit une lettre qui va changer son destin. Mm-hmm. Pour en parler, on retrouve Joe Hume qui a été très inspiré, je crois.
Oui, alors j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce film. Alors bonjour, bonjour Terry, bonjour
comment
Marie,
ça va,
bonjour aux personnes qui nous écoutent. Vous avez bien fait de vous brancher sur le Breakfast Ciné Club ce matin, effectivement, parce qu'on va parler d'un film qui va droit au cœur, qui en tout cas a vraiment touché le mien, qui m'a fait rire, qui m'a ému, qui m'a rappelé ce que c'était que de voir du cinéma classique dans le bon sens du terme. Donc j'ai hâte de vous parler un petit peu de tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, je suis ravi d'être là. Voilà.
Terry, aussi à tes côtés, de très bonne humeur. Comment
oui,
ça va?
Oui, eh ben écoute, ça va super bien. Je suis encore une fois ravi de vous retrouver, ravi de retrouver les personnes qui nous écoutent, même si, encore une fois, je tiens à préciser que je ne comprends pas pourquoi un breakfast ne pourrait pas se faire aux alentours de 22h. Enfin, moi, voilà, je trouve que...
C'est un apéro, ça. Hein,
oui, voilà, on pourrait faire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, je suis très, très, très content. Et puis surtout, je pense que voilà, on a tous aimé le film. Mais ce que j'aime en particulier, c'est que j'aurais vachement de mal à le pitcher rapidement, ce film. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir parler d'un film qui a des facettes aussi multiples, avec des thèmes, des enjeux un petit peu différents. Donc j'ai hâte aussi d'entendre vos avis.
Eh ben on est parti, il reste encore demain le film italien qui a surpris tout le monde. On vous en parle tout de suite dans le Breakfast Ciné Club. Joe,
oui.
Un mot.
Allez, comme ça.
100, comme
un
2000.
Mot, perfection. Ça ne le sait absolument pas. Perfetto. Alors, ouais, moi, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé Il reste encore demain. Il y a plein d'aspects dans ce film qui me plaisent, qui m'ont touché. Déjà, ce qui m'a marqué dès le départ, dès les premiers plans, c'est la forme. On est devant un film d'époque en noir et blanc, mais qui ne se limite pas à ça. C'est-à-dire qui vraiment contourne certains clichés, outre la musique. Qui a parfois recours à des chansons modernes, par exemple, et qui, dès le début du film, crée ce genre de décalage, un anachronisme assumé. On a aussi une unité de temps et de lieu qui évoque la tragédie grecque. Moi, j'ai fait du théâtre, donc forcément, ça m'a touché particulièrement, avec la place centrale du square, qui représente le cœur de la cité, qui abrite les témoins de la tragédie. D'ailleurs, au-delà de la tragédie, le film s'appuie sur d'autres ressorts qui sont propres au spectacle vivant, au théâtre. Dès le début, on a des effets visuels pratiques, par exemple, qui servent servent à installer un cadre à l'histoire, comme par exemple le décor du petit appartement qui est à moitié sous terre, l'appartement de Delia et sa famille, donc la personnage principale, l'utilisation de la poussière qui a une vraie fonction. Dès les premières minutes, je me suis dit, putain, c'est dingue, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de la poussière avoir une telle une telle fonction narrative.
Ouais, une telle utilité, quoi.
Et exactement, ça a une utilité, c'est pas juste des effets de style comme ça. Il y a des accessoires également qui servent chacun à raconter quelque chose du personnage auquel ils appartiennent. Je repense à ce vieux calendrier mécanique qui est utilisé, vous le verrez, par un personnage du film et qui au début peut paraître anecdotique et finalement ça dit quelque chose sur le personnage qui est engoncé dans une tradition, dans un truc. Donc ce calendrier mécanique, ça raconte quelque chose. Moi j'aime ce cinéma un peu théâtral où chaque chose a une fonction, chaque élément a son importance dans le récit. Et puis il y a l'actrice réalisatrice, on va en parler, Paola Cortellesi, qui ménage aussi quelques passages musicaux. Alors attention, on n'est jamais vraiment dans une comédie musicale, mais il y a tout de même certains moments qui reposent un petit peu sur ces codes-là. Alors je vais pas spoiler et donc rester très vague, mais j'ai trouvé d'ailleurs très 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 astucieuse, très intelligent l'usage très dosé de la musique et de la chorégraphie qui viennent à chaque fois illustrer des moments précis que je vais vous laisser découvrir en salle quand vous verrez le film, mais qui une fois de plus servent à quelque chose. C'est pas gratuit. C'est pour proposer une vision, une histoire sur un ton qui soit adapté à tous les publics. J'ai trouvé ça vraiment bien. Moi, je suis sorti de ce film avec la sensation d'avoir vu vraiment un petit classique, un film qui sent à la fois l'artisanat, la volonté d'être populaire, c'est-à-dire de s'adresser vraiment à tout type de public, le plus large possible, et de lui présenter une tragicomédie qui, tout en abordant, comme tu le disais, Thierry, plusieurs types de sujets, plusieurs problématiques, mais le postulat de base, c'est un fait historique, en fait, que ça te raconte, ce film. Et puis, il y a tout ce qui va venir graviter autour. C'est également donc le reflet de la société patriarcale italienne qui est encore aujourd'hui très ancrée dans ses traditions. On va en parler. Les violences conjugales qui sont au cœur des débats en ce moment dans le pays, alors que là, le film se passe dans les années 40 et tu te rends compte que bon, bah, y a pas grand-chose qui a changé. Voilà, ça fait que le film a effectivement remporté une adhésion incroyable et mis au centre des discussions en Italie le féminisme, la place des femmes dans la société italienne qui n'a pas vraiment bougé. Et je pense que c'est très bien que ça sorte ici en France parce qu'on a des choses à apprendre de ce film. Aussi,
oh ben, je crois qu'on a tous des choses à apprendre et comme tu le soulignes, Joe, la société patriarcale italienne très ancrée dans ses traditions, ça se mesure en chiffres, dates, faits divers. Alors avant d'aller plus loin dans mon ressenti personnel du film, j'aimerais expliquer en fait pourquoi le film de Paola Cortellesi est survenu à un moment où les Italiens étaient particulièrement vulnérables sur la question des violences conjugales. Le film est sorti en automne dernier.
Ouais, et, en octobre, si je me trompe.
Ouais, et en fait, à ce moment-là, une jeune femme prénommée Giulia, qui était âgée de 22 ans, a été assassinée par son petit ami en Italie. Et ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue pour dire, en fait, stop à la romantisation du crime dit passionnel. C'était un féminicide, voilà. Ouais. Un meurtre d'une femme commis par un homme. Jusqu'en 81, petite précision, le crime d'honneur disait noir sur blanc en Italie qu'une femme adultère, ça réduisait la peine de son meurtrier de mari.
Voilà. Ouais, d'accord, okay.
Autre stat terrifiante, selon un rapport gouvernemental italien de 2021, 50% des hommes dans certaines régions pensent que les violences conjugales sont acceptables. Donc quand tu parles de justement un pays qui est ancré justement dans ses traditions et qui est fortement patriarcal, on est vraiment en plein dedans. Ouais. Et c'est dans ce climat en fait que le film Il reste encore demain a débarqué en salle. Le 25 novembre dernier, le film a été projeté au Sénat italien. Pour vous dire à quel point ça a dépassé en fait juste la simple mobilisation des gens au cinéma. Il y a des centaines de milliers de lycéens qui l'ont vu dans une démarche pédagogique afin de discuter de la violence domestique, de l'autonomisation aussi des femmes. C'est une production artistique qui est vue comme un levier d'éducation, un éveil de conscience. Et ça, je trouve ça personnellement fabuleux. Il reste encore demain, comme tu le disais, c'est un film des années 40, hein, c'est un film d'après-guerre. Rome porte encore les stigmates du conflit. Un référendum va être organisé pour décider si la botte reste une monarchie ou devenir une république. Les femmes pourront enfin voter. Bon, voilà, c'est l'histoire, en fait.
Ouais.
Et Ce film montre à quel point, en fait, la violence envers les femmes était banalisée. Elle l'a encore, c'était complètement absurde. Chaque matin, le personnage principal, donc Delia, incarné par Paola Cortellesi, la réalisatrice, lance gaiement « Bonjour », et se mange une droite. Voilà, elle se lance direct, elle se prend ça. Il y a la BO qui lance un petit air romantique des années 40. Tu sens que c'est aussi banal que se coiffer ou s'habiller pour aller au travail. Ouais.
Hein. Et ça donne le ton, parce que c'est littéralement, on commence le film là-dessus,
ouais.
et c'est vrai que tu arrive et tu te dis ok d'accord, on rentre sur quelque chose de très concret et de très explicite.
C'est ça, et comment c'est hyper intégré quoi, comment c'est intériorisé tout ça.
Oui, c'est-à-dire que d'un côté il y a la violence de l'image dont Terry parle, et puis juste derrière il y a son intégration dans un quotidien
total,
et dans un truc hyper banal et où t'as l'impression que voilà, ça fait partie de ce qui rythme la journée quoi.
Exactement, et j'ai trouvé aussi appréciable qu'Ivano, donc le mari violent de Delia, il ait l'air pathétique, c'est genre un gigabouffe fond. Hein. Et de son aveu, en fait, la réalisatrice a déclaré dans la presse qu'elle voulait en faire un idiot pour qu'il n'y ait aucun risque que quiconque l'idéalise ou limite.
Ouais.
On pense notamment à l'impact des séries sur Dahmer ou encore Ted Bundy.
Ouais.
Et elle disait, c'est
qu'il
une façon...
Qu'il n'ait pas de pouvoir de fascination.
Exactement.
Quoi.
Ouais. Elle disait, c'est une façon d'exorciser la peur du monstre. Quand vous riez de la bêtise de quelqu'un, votre peur disparaît. Ça m'a fait penser aux épouvantards dans Harry Potter.
Ah oui. Et juste avant que tu continues, je tiens à saluer la prestation de Valerio Mastandrea, qui est un acteur révéré en Italie et qui livre une prestation assez dingue dans le rôle de ce personnage, justement parce que tout en étant un personnage un peu simple, il y a une vraie complexité derrière que j'ai trouvé incarnée de manière vraiment intéressante.
En plus ils se retrouvent ce duo, hein, ils avaient été déjà ensemble mari et femme dans Philly je crois, et du coup un rapide mot sur le néo-réalisme dont tu parlais, cette esthétique noir et blanc qui nous rappelle des chefs-d'œuvre hein, du genre Le voleur de bicyclette, voilà, du 4 tiers, qui finit par s'étirer en 16/9 lorsque Delia quitte sa maison.
Bah non, je me suis dit ça, non, mais attends, ça a démarré en 4 tiers.
Ça a démarré en 4 tiers, et cette BO des années 40 qui laisse place au rock du John Spencer Blues Explosion de 98, comme tu le disais, voilà, des ajouts de chansons modernes, parce que finalement, les violences d'hier sont aussi celles d'aujourd'hui. Des violences chorégraphiées comme des danses, des joutes, dont ce schéma est en fait transmis de génération en génération, comme on se passerait une tradition. Dans la famille. C'est une surprise visuelle, musicale, et c'est donc ça, il reste encore demain. C'est tout ça à la fois. Terry, qu'est-ce que t'en as pensé de justement ?
C'est marrant, enfin, j'ai vraiment pensé, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que le film est génial, et moi il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'était la mise en scène de ce film, mais aussi donc la mise en image de la violence. J'aimerais qu'on se pose quelques instants pour parler donc de cette fameuse chorégraphie, parce que je pense qu'elle nous a tous marqué. C'est que sans vouloir donc non plus spoiler nos auditeurs, dans ce long métrage on va assister donc à de nombreuses scènes de violence physique qui sont souvent donc difficiles à regarder, mais là justement elles font tellement partie du quotidien qu'il y a une manière de finalement de les mettre en image que personnellement je n'avais encore jamais vu.
Ouais. Et limite ça t'aide encore plus à te questionner, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je suis en train de voir là et qu'on me fait passer de manière assez
presque douce,
assez légère, pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'y être habitué, tu vois,
et c'est justement là que l'absurde prend tout son sens. Là où beaucoup de cinéastes donc auraient tendance à nous montrer de manière très explicite ou même parfois choquante ce genre de situation, ce qui est parfois intéressant et souvent d'ailleurs nécessaire, la réalisatrice a choisi de mettre en forme donc cette chorégraphie mignonne, presque drôle, où notre héroïne va prendre des coups qui sont parfois censés laisser des traces, hématomes, sang, plaies, qui vont finalement disparaître au fur et à mesure, comme si tout ça c'était un petit peu dans sa tête, comme si tout ça, il ne fallait pas qu'on le voit, et tout en ayant finalement ces scènes qui font partie du quotidien, du voisinage. Et ça, j'avais trouvé ça quand même assez particulier, qu'on était finalement en train de voir cet homme qui ne savait pas exprimer sa frustration et un soi-disant syndrome post-traumatique dû aux affrontements de la Seconde Guerre. Et
ouais, moi, c'est cette excuse qui revient régulièrement, c'est à cause de ça. Ouais.
C'est assez fou. Donc voilà, je pense qu'on aurait tous été choqués de voir une scène de violence conjugale classique, mais cette mise en scène, cette façon de donner de la douceur à quelque chose de si violent rend la situation presque plus dramatique.
Oui, vraiment.
Et la version qu'on peut ressentir pour certains personnages masculins plus grandes. Et d'ailleurs, c'est des personnages masculins qui sont quasiment tous inutiles, mais pas dans le mauvais sens. On parlera peut-être un peu plus tard.
Ouais. Je pensais notamment au grand-père hein, qui dit ma femme, elle était super. Bah, c'est quand même jeté du cinquième.
C'était quand on pouvait se marier avec nos cousines.
Ouais.
C'était quand même le bon temps. C'est comme sympa. ça que ça devrait faire. Mais je tiens juste avant de te laisser la parole, Marie, à préciser que certaines de ces scènes, et c'est ça qui, pour moi, a ajouté une couche supplémentaire dans ma vision du film, c'est des enfants qui en sont témoins, en fait. Ouais. Et tu constates la manière dont ce quotidien et cette transmission dont on parle... passe ensuite par les enfants qui sont pour qui c'est tout aussi normal et banal de voir ça que nous en tant que public, la manière dont ça nous est présenté. Ouais. Je sais pas si je m'exprime très bien.
Non, si,
mais
si,
ce que
si,
je veux dire, c'est qu'on nous met presque à la place des enfants, c'est-à-dire que comment fait un enfant pour essayer d'effacer de son esprit ou de transformer de la violence en quelque chose de pas forcément de positif, mais de normal. Il le banalise en le transformant en musique, en histoire de super-héros ou tout ce que tu veux. Et j'ai l'impression que le fait de transformer cette violence en quelque chose de plus léger, c'est aussi pour installer le public, nous donner presque ce regard de témoins qui font partie de la famille, comme des enfants qui assistent à un truc et qui essaient de le transformer en quelque chose de plus...
Pour pas que ce soit traumatique. Ouais.
Exactement. Mmh. Et vraiment, ça m'a fait me poser beaucoup, beaucoup de questions sur ce que voulait transmettre la réalisatrice, à quelle place elle voulait mettre le spectateur et les spectatrices. Je trouvais ça hyper intéressant. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux de lecture qu'on peut se placer selon notre âge, selon notre rapport au couple... Ouais. Et au sexe, y a vraiment différentes manières d'aborder ce film et de le recevoir. J'ai trouvé ça vraiment intéressant.
C'était hyper intéressant. Je vous propose justement d'avoir un extrait du film et on se retrouve juste derrière.
On peut savoir ce que t'as dans le crâne.
Qu'est-ce que j'ai fait ?
Ferme-la. Tu peux pas la battre constamment, sinon elle va s'habituer. Vous allez tous crever de jalousie parce que ma fille va épouser un monsieur et pas un pouilleux comme vous.
Ton mari, tu dois bien le choisir. Julio est le bon.
J'en sais rien, dis-le-moi, toi. Toi qui as si bien choisi.
Pense aux enfants. Pense à Marcella. Justement, c'est à elle que je pense.
Mais pourquoi tu le laisses te traiter comme ça?
Pour toi, il est encore temps.
Pour toi aussi, maman.
Breakfast Ciné Club.
Voilà. J'ai tapé dans les croissants.
Je vous rappelle j'ai littéralement que nous sommes, tapé dans les croissants.
Oui, voilà. C'est...
J'en ai mangé deux.
Plusieurs fois. Alors, on parle beaucoup de ce film à travers le très, très gros succès qu'il a remporté en Italie. J'ai lu ici et là dans la presse française, en prévision de la sortie du film, qu'il avait rencontré un petit peu le même genre d'adhésion populaire en France que des films comme Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain,
Intouchable,
The Artist. Sauf que quand tu te penches vraiment sur la liste des plus grands succès historiques du cinéma français, je suis allé voir, tu trouves pas vraiment de films qui ont une telle résonance sociale et politique. C'est-à-dire que tu tombes très régulièrement sur des films comme ceux que je viens de citer, qui sont soit des films d'époque, des comédies, mais qui ne sont pas des films avec une telle conscience politique. Et c'est aussi, je trouve, ce qui fait la singularité de Il reste encore demain, c'est que malgré cette légèreté qui peut sembler pour certaines ou certains amoindrir le propos, nous, vous avez bien compris que ce n'est pas du tout ce qu'on en a pensé, c'est un film qui réussit à trouver l'équilibre entre divertissement populaire et film d'auteur politique. Ouais. Et ça, c'est rare. Ça va même, je trouve, encore plus loin que La vie est belle de Benigni, qui est un chef-d'œuvre. Attention, je suis pas en train de comparer les films, mais c'est juste que le souvenir que j'ai, en tout cas, de La vie est belle, c'est surtout l'aspect musical, tout le message solaire qui ressortait de ce film, alors que je trouve que Il reste encore demain offre quand même une vision plus... parfois plus glaçante de tout ça. Et derrière cette légèreté, il y a vraiment une profondeur, quelque chose de sombre qui se cache. C'est rare, mais je peux, cela dit, concevoir que ça ait créé effectivement cette surprise générale en Italie, puisque le film... Donc, c'est la première réalisation de
Paola Cortellesi,
Qui joue aussi donc, le rôle du personnage principal, celui de Delia. Et qu'elle, c'est une actrice aux États-Unis, mais c'est aussi...
En Italie.
J'ai dit en quoi ?
Aux États-Unis.
Non, en Italie, pardon. en Italie, bien entendu, c'est une actrice, mais c'est aussi une animatrice, une personnalité publique. Elle a fait de la chanson, elle a fait du spectacle humoristique. C'est une personnalité très célèbre qu'on attendait, apparemment, d'après ce que j'ai compris, pas du tout dans ce registre. Paola Cortellesi, certes, elle a remporté, on en parlait avant l'émission, l'équivalent d'un César en Italie, mais elle apparaît principalement dans des comédies. D'ailleurs, son César, c'était pour l'adaptation d'une comédie française.
Ouais.
Je disais qu'elle avait été humoriste. Elle a co-animé une émission avec Laura Pausini.
Laura et Paola.
Qui s'appelait Laura et Paola. Donc vraiment, effectivement, je comprends qu'aux yeux du public, elle représentait une forme assez lisse de divertissement national, si tu veux. Donc, quand elle sort Il reste encore demain, non seulement elle draine un énorme public de par sa popularité, mais en plus de ça, elle le prend de court. Elle a utilisé cette popularité pour sensibiliser son pays au sujet des violences conjugales. Le film, comme tu le disais, a été projeté face à des lycéens, des écoliers en Italie, dans le but de les éduquer, de faire de la prévention. Et moi, je pense que si un film est nécessaire en Italie, il l'est tout autant, je le disais, ici en France, d'autant que, comme on le dit, c'est un film extrêmement lisible, c'est fluide, qui déroule son récit de manière très classique, mais pas au sens péjoratif du terme. Moi, j'ai eu l'impression de voir un truc pas du tout poussiéreux, pas du tout passéiste. En fait, Il reste encore demain, c'est du rétro-modernisme, en quelque sorte. C'est se servir de l'écho d'un changement social fort en Italie dans les années 40 pour parler d'un autre changement qui n'est pas encore arrivé, mais qui est vraiment nécessaire et qui devra passer par la sensibilisation, par l'éducation et par une évolution des mentalités. Donc c'est un film courageux. Je trouve que son succès est amplement mérité et je compte bien sur vous qui nous écoutez pour le faire triompher aussi ici en France. Ça prouverait qu'on est sensible aux mêmes problématiques et qu'on a des alliés hors de nos frontières.
Alors voilà. Je rebondis sur ce que tu as dit, Joe, hein, la légèreté qui surprend, on l'a abordé un petit peu plus tôt parce que le contexte il est grave. En fait, c'est très italien, la réalisatrice elle le dit elle-même, hein. Les anecdotes des grands-mères, des mères, des tantes qui ont pris des torgnoles, hein, qui souffraient de leurs conditions de femmes, c'était toujours raconté à table avec le sourire.
Ouais.
Ma mère, qui est sicilienne, me racontait les violences que son père a vues toute sa vie avec une sorte de détachement, et c'est assez effroyable de voir comment c'était intégré, banalisé.
Ouais.
C'est devenu un truc de la famille, quoi. Ouais. Un oncle un peu fétide. Et du coup, ça rend le film hyper authentique de ce point de vue-là. Alors, comme tu le disais, Paola Cortellesi, c'est une figure très, très populaire de l'Italie, animatrice, mannequin, humoriste. On l'attendait pas, du coup, avec ce premier long métrage, mais ce que je comprends, c'est quand même une surdouée qui finalement incarne des personnages qui ont aussi créé leur propre révolution. Mmh. Je pense notamment au rôle de Maria Montessori qu'elle a incarné et qui lui a valu ce fameux David Di Donatello, de la meilleure actrice, une femme qui s'est battue pour démontrer que l'éducation était possible pour tous, même aux personnes atteintes d'un handicap. Elle le dit elle-même pour Il reste encore demain, le film met en avant des femmes ordinaires aux actes extraordinaires qui ont finalement, sans le savoir, construit l'Italie. Alors, j'ai pu lire que Lady Gaga a vu le film.
Ah oh.
Qu'elle alors. Est très intéressée pour acheter les droits d'adaptation pour un remake américain.
Ok.
En espérant...
There's always tomorrow.
There is still be tomorrow. Si les rumeurs sont vraies, qu'elle arrivera à recréer ce qui se passe en salle lorsque le film tourne, en fait. Hein, des pleurs, des rires en même temps. Une résonance des thèmes abordés, qu'ils soient de l'ordre des violences conjugales ou encore des relations mère-fille. Et c'est tout ce que je souhaite.
Ouais, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être marrant. Mais alors, tu vois, plutôt je parlais des hommes qui ne servaient à rien dans le film. Alors attention, c'est pas du tout une critique négative, au contraire. J'ai trouvé ça cool. C'est-à-dire que ce soit
c'est
le
cool
mari...
de servir à rien, les mecs.
Non, mais c'est vrai, parce que ce soit le mari, le beau-père, le papy, même les petits garçons, on se demande s'ils sont vraiment utiles, non pas à l'intrigue, mais à la société de l'époque. c'est-à-dire que finalement, bon, il y a un petit soldat américain qui va filer un coup de main et puis on dit, voilà, c'est cool. Mais j'ai l'impression que globalement, toutes les femmes de ce film iraient quand même vachement mieux s'il n'y avait pas ces messieurs, souvent proches de la débilité, pour les empêcher d'avancer. Même l'ami, finalement, le meilleur ami, l'ami de la famille qui est un petit peu simplet, voilà, il n'a pas trop d'utilité. Et le seul moment où il décide de faire quelque chose, ça tourne mal. Donc voilà, on aurait bien voulu qu'il apprenne le timing, celui-ci. Mais la seule personne qui a l'air de finalement bien gérer son homme et sa vie, c'est la meilleure amie de Delia, qui d'ailleurs décide de s'occuper un petit peu de tout, dans la relation, dans le business, dans le couple. Peut-être qu'il y a un message. Voilà, peut-être qu'il faut prendre note de quelque chose. Alors, est-ce que les hommes sont inutiles en réalité ? Non, mais j'aime le fait que l'accomplissement personnel dans ce film ne réside pas dans la recherche du grand amour. Au contraire, l'accomplissement s'atteint par l'émancipation. Et si je peux me permettre d'ajouter un petit élément sympa pour conclure mon propos, j'ai aussi beaucoup aimé la musique, tu en parlais tout à l'heure, parce qu'elle va vraiment dans tous les sens.
Oui, oui, complètement.
Toutes les époques sont présentes.
Ça peut même sembler foutraque à un moment.
Ouais.
Oui, ça à ce moment-là. Et quand il repense après, d'ailleurs, non, tout a un...
Et tout a un sens. Et puis on termine avec, avec du rap qui, pour le coup, donc, a vraiment complète un petit peu cette dimension multiculturelle, musicale dans ce film. Donc je vais lever mon chapeau, plutôt mon bonnet. Alors je ne connais...
Tu veux dire qu'on va te voir sans ton bonnet, là ?
C'est impossible.
Ah, il n'a mais... pas bougé. Hein,
va le lever vraiment...
Je lève l'arrière de mon bonnet.
Métaphoriquement, quoi.
Et moi, je connais vraiment trop peu le cinéma italien. Et Il reste encore demain. On était donc une superbe introduction. Je conseille d'habitude d'aller voir les films entre amis ou en famille, mais là je trouve que celui-ci, il y a un côté assez intéressant de le voir seul, pouvoir se plonger un peu dans ses pensées et pour le digérer un petit peu avant de se confronter aux différentes interprétations. Donc allez le voir, solo pourquoi pas, ça peut être pour une fois une plutôt bonne chose.
On va se réécouter un petit extrait.
De tous les jours de l'année, il fallait qu'il choisisse aujourd'hui pour mourir. Il a fait ça exprès pour t'embêter. Cet enfoiré de salaud.
Charogne infâme.
Misérable pourriture.
Assassin charognard.
Abominable vieux crapaud.
Dites une prière pour nous aussi.
Oui, on en a beaucoup dit déjà.
Au revoir.
Au revoir.
On a parlé, on a débité, mais c'est aussi ça la beauté du cinéma, hein, qu'un film nous emmène, nous fasse parler, pleurer, rire, réfléchir. Alors allez voir, il reste encore demain, c'est d'utilité publique et c'est une réussite magnifique. Rendez-vous en salle du coup le 13 mars. Merci Joe, ouais. Merci Terry.
Merci beaucoup. Et surtout, si jamais un jour vous dites tiens, je vais aller au cinéma voir le film, ne vous dites pas il reste encore demain. Allez-y, vraiment,
ouais, allez-y de suite.
Vous, voilà, ne prenez pas le titre au pied de la lettre. Allez le voir maintenant, quoi.
Clairement, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Merci de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt dans le Breakfast Ciné Club.
Ciao, ciao, ciao.
Breakfast Ciné Club.
On peut savoir ce que t'as dans le crâne.
Qu'est-ce que j'ai fait ?
Ferme-la. Je t'en foutrais. Occupe-toi de nous ramener de l'argent et donne un coup de main à ton incapable de mère.
Pourquoi lui, il gagne plus que moi ?
C'est un homme, voyons.
Tu sais, Delia, c'est une bonne ménagère.
Elle me cherche. Tu peux pas la battre constamment, sinon elle va s'habituer. Une fois, mais fort.
Vous allez tous crever de jalousie parce que ma fille va épouser un monsieur et pas un pouilleux comme vous. Bande de minables !
Et dire qu'il y aura plus de femmes dans cette maison quand tu partiras.
Tous les matins depuis 30 ans, je le regrette. J'ai été distrait une minute et il t'a volé.
Ton mari, tu dois bien le choisir. Giulio est le bon.
J'en sais rien, dis-le-moi, toi. Toi qui as si bien choisi.
Qu'est-ce que t'as à me regarder ?
T'auras plus à aller travailler.
Et qui t'a dit ça ?
Moi, je te le dis. Tu as moi.
Je pique un peu dans l'argent que je gagne avec mon travail.
Comment ça, tu piques, mais cet argent, il est à toi ?
Tenez, il y a du courrier. C'est pour vous.
Pense aux enfants. Pense à Marcella.
Justement, c'est à elle que je pense.
Mais pourquoi tu le laisses te traiter comme ça ?
Tu sais bien que moi, j'y connais rien. Pour toi, il est encore temps.
Tu vas où, là ?
Toi aussi, maman.